Et le serpent était, là vous avez l'usage emphatique, la condition du serpent, la propriété du serpent était rusé plus que tous les animaux des champs, toutes les bêtes sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et la femme dit au serpent, du fruit des arbres du jardin, nous mangeons. Et du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, mourir, vous ne mourrez pas. De nouveau, l'usage de cet infinitif absolu que j'ai expliqué ce matin. Vous ne mourrez pas vraiment ou totalement, ou je ne sais. Et le serpent dit à la femme, donc mourir, vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous mangerez de lui, vos yeux s'ouvriront et vous serez, de nouveau un usage emphatique de ce verbe, votre condition sera comme Dieu ou comme des dieux, deux traductions possibles, connaissant bien et mal. Et la femme vit que l'arbre était bon quant à la nourriture et que désir lui pour les yeux, littéralement. Qu'il était un désir pour les yeux et qu'il était convoitable pour ouvrir l'intelligence, pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et elle mangea et elle donna aussi à son mari avec elle et il mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et se cousirent du feuillage de figuier et se firent pour eux des ceintures ou des pagnes. Voilà les 7 versets que nous lisons aujourd'hui. J'espère que nous pourrons lire la suite demain matin. Et je vous invite également à lire un passage dans le livre du prophète Ézéchiel qui, je crois, évoque en filigrane l'événement de Genèse 3. Cette thèse que j'affirme en disant cela est assez répandue parmi les exégètes contemporains. Elle n'est pas très courante parmi les évangéliques qui, je crois, ne la connaissent pas. Alors, vous allez peut-être être surpris, mais enfin, je crois que ce texte est au fond un commentaire biblique ou une autre façon de dire dans un autre langage ce qui nous est dit dans Genèse 3. Par l'inspiration du même esprit et par la bouche du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 28, les 19 premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur Éternel. Parce que tu t'es enflé d'orgueil, tu as dit, je suis un dieu. Je suis assis sur le trône de Dieu au milieu de la mer. Alors que tu es un homme et non un dieu. Tu te fais un cœur semblable à Dieu. Voilà que tu es plus sage que Daniel. Pas un sage n'est semblable à toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Si grande est ton habileté dans le commerce. Tu as multiplié tes richesses et ton cœur s'est enorgueilli de tes richesses. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Éternel, parce que tu t'es fait un cœur semblable à Dieu, eh bien, je vais faire venir contre toi des étrangers, la plus barbare des nations. Ils tireront l'épée contre ta belle sagesse. Ils souilleront ta splendeur. Ils te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras de mort violente au cœur des mers. Diras-tu encore, je suis un dieu en face de tes meurtriers? Mais tu es un homme et non un dieu. Entre les mains de qui te tue. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main d'étrangers, car moi j'ai dit, oracle du Seigneur éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. tu diras « Ainsi parle le Seigneur éternel ». Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleuse en beauté. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. 1000 pierres précieuses formaient ton manteau, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. L'or dont sont faits tes tambourins et tes flûtes furent préparés au jour de ta création. Avec un chérubin protecteur, je t'avais placé. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des charbons ardents. Tu fus exemplaire dans ta conduite depuis le jour de ta création jusqu'au jour où fut trouvé en toi le mal. Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et le chérubin protecteur t'a fait périr du milieu des charbons. Ton cœur s'est enflé d'orgueil à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté à terre, je t'ai offert aux rois en spectacle. Par la multitude de tes fautes, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as souillé tes sanctuaires. J'ai fait sortir de toi le feu pour te dévorer. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardaient. Parmi les peuples, quiconque te connaît est frappé de stupeur à ton sujet. Tu es un objet d'épouvante, c'en est fait de toi à jamais. Je ne commenterai pas spécialement ce texte. Il ne s'agit pas d'étudier pour nous le passage d'Ézéchiel, qui est, je crois, correctement traduit ici par la Bible de Jérusalem que j'ai lue. Et les différences de traduction que vous avez pu constater avec la version seconde, par exemple, je crois, doivent se résoudre en faveur de la Bible de Jérusalem, sur ce point. Et si la complainte, après l'oracle, les deux se correspondent, concerne le prince de Tyr, et si ainsi plusieurs des éléments que nous avons ne sont à appliquer qu'à ce prince fastueux de l'époque d'Ézéchiel, il semble bien qu'une autre chute soit évoquée comme en arrière-plan ou en filigrane, comme j'ai dit, une chute à laquelle celle du prince de Tyr est assimilée. Comme il est question d'Éden, et que la seule chute en Éden dont il soit question dans la Bible avant le passage d'Ézéchiel, et celle dont nous parle la Genèse, il est assez naturel de penser à Genèse 3. Et alors il est frappant de constater que les thèmes que nous allons trouver dans la Genèse se retrouvent, avec un autre langage bien sûr, dans ce chapitre d'Ézéchiel. Je les signale déjà, à titre préliminaire, l'orgueil, la volonté d'être semblable à Dieu, la prétention à la sagesse, intelligence et la punition par la mort qui rappelle à l'homme qu'il n'est qu'un homme tiré de la terre. Vous voyez qu'il y a des similitudes assez frappantes et on peut, je crois, assez aisément concevoir, je crois que c'est l'interprétation correcte, que ce roi de Tyr qui s'est voulu comme Dieu a refait en quelque sorte le geste du premier homme et puni de manière semblable. Ce premier homme qui avait été établi comme roi sur la création de Dieu, comme nous l'avons vu déjà hier. Je parle de chute, comme c'est la tradition, comme c'est la coutume, et comme le texte d'Ézéchiel peut nous y inviter, puisqu'il s'agit de chute dans la complainte, je t'ai jeté à terre. Cependant, il est utile de remarquer, je crois, que le texte de la Genèse, lui, ne parle pas de chute. Que l'image de la chute en est tout à fait absente et qu'il y a peut-être danger de mauvais aiguillage dans un choix de vocabulaire que le texte n'encourage pas. Qui dit chute pense dénivellation, facilement en tout cas. Et souvent, ce qui est arrivé, la catastrophe primitive qui nous est racontée en Genèse 3, a été interprétée sous l'influence de la pensée grecque comme la chute d'un niveau métaphysique élevé à un niveau métaphysique inférieur. Chute d'une vie immatérielle jusque dans les servitudes de la vie matérielle, par exemple. Je crois que nous devons dénoncer cette façon de penser, elle n'a pas d'appui dans le texte. Si la notion de chute
peut se trouver associé de façon étroite au péché comme tel dans l'Écriture, c'est la chute sur le chemin, non pas la chute qui fait tomber d'une altitude à une autre, une altitude à une zone inférieure, mais la chute sur le scandale, c'est-à-dire sur le caillot d'achoppement, et qui fait s'étaler et se blesser sur la route. Voilà l'image de la chute qui revient assez souvent dans l'Écriture, associée au péché. Mais elle n'est même pas employée dans la Genèse. Dans la Genèse, aucun mot générique n'est utilisé, mais Paul, y faisant référence dans Romains 5, emploiera le mot de désobéissance. Et sans doute, c'est celui qui peut venir le tout premier sur les lèvres du commentateur de Genèse 3. Désobéissance ou transgression. Paul Ricoeur, nous avons suffisamment parlé entre théologiens tout à l'heure, Paul Ricoeur dit qu'il faudrait l'appeler un mythe de l'écart. Alors lui, bien sûr, appelle ce récit un mythe, mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est cette utilisation du terme d'écart, peut-être pas trop mal choisi, l'homme s'écarte du chemin qui lui avait été tracé. Cependant, ce n'est pas le titre que je choisirai. Le titre que je choisis, je vous l'ai déjà annoncé le premier jour, c'est la rupture de l'alliance. Il me semble que c'est l'expression la plus pleine, la plus riche, la plus significative pour rendre compte de l'événement de Genèse 3, 1 à 7. Alors la première question qui se pose, c'est avons-nous le droit de parler d'alliance ? Puisque le terme n'apparaît pas dans le texte lui-même. Je le crois en effet, vous vous en doutez, puisque je choisis ce titre. Et je vais vous donner mes raisons, qui nous donneront l'occasion d'ailleurs de commenter certains éléments du texte laissés de côté ce matin. Le premier appui, c'est un verset du prophète Osée. Osée 6, 7, dans un passage qui accuse les contemporains, dit littéralement « Comme Adam, ils ont transgressé l'alliance. » Comme Adam, comme Adam, ils ont transgressé l'alliance. Alors certains traducteurs ont essayé d'éviter cette traduction qui est la plus simple. La version seconde dit « comme le vulgaire, ils ont violé l'alliance, transgressé l'alliance ». Mais je trouve que c'est un peu trop tiré sur le sens des mots, et que si le mot « Adam » peut vouloir dire l'humanité en général, oui, il ne signifie pas le vulgaire par distinction d'une aristocratie dans le peuple. Il ne signifie pas une couche de population particulièrement méprisable et particulièrement infidèle au contrat signé. Alors dire comme le vulgaire, c'est vraiment donner, je crois, à la traduction, là, un coup de pouce un peu, pas très honnête, comme le vulgaire. La version de Jérusalem, elle, en tout cas dans sa première édition, je n'ai pas vu l'édition révisée, toute récente, je ne sais pas si quelqu'un l'a pour vérifier, change la préposition, carrément corrige et met à Adam. Ils ont transgressé l'alliance en supposant qu'Adam est un nom de localité. Un nom de localité qui aurait été signalé par des excès idolâtriques ou que sais-je. Mais ils n'ont aucune preuve de l'existence de tels excès à une localité nommée Adam. Et de toute façon, ils changent sans aucun droit, sans aucune preuve objective, la préposition « comme » en préposition « dans ». Il me semble que c'est une façon de tourner le texte encore qui ne se justifie pas. Alors il reste le sens de la traduction la plus élémentaire, la plus simple, « comme Adam, ils ont violé l'alliance ». C'est une habitude d'oser, de remonter à l'exemple malheureux des grands ancêtres. À la fin de son livre, Osée évoque Jacob, ce qu'a fait Jacob, à la fois sa perfidie et aussi d'ailleurs son repentir. Et il dit aux fils de Jacob qu'ils sont comme leur père, et il les invite, je crois, pour, du même coup, à se repentir comme leur père l'a fait. C'est ainsi que je comprends le passage. En tout cas, il est certain qu'il remonte jusqu'à l'exemple de Jacob, qui remonte aussi au début de la royauté, au jour de Gibéa. Dans le second chapitre, il remonte au temps de l'Exode et puis au Val d'Achor, où s'étaient passés les événements malheureux de l'entrée dans la terre promise. C'est une habitude d'oser de remonter au passé dont l'Écriture rend témoignage, l'Écriture déjà constituée. Il n'y a rien donc d'impossible à ce que le prophète osait et rappelait la désobéissance d'Adam, et en disant que ses fils, hélas, qu'il voit agir autour de lui, suivent dans sa perfidie, sa rébellion, sa traîtrise, leur premier père, Adam. Ainsi, je crois que nous avons le droit, sur la base de ce texte, de dire qu'il y avait une alliance que la désobéissance d'Adam a transgressée. Et alors, le second élément de preuve, après cette preuve tirée d'Osée, c'est la présence, dans le texte de la Genèse, de tous les éléments typiques de l'alliance. Le monde n'y est pas, mais tout ce qui constitue la situation d'alliance se retrouve. Et on peut faire un parallèle, qu'on trouve d'ailleurs chez Barthes, je vous le signale à ceux qui veulent lire les commentaires que Karl Barthes a donné de ce passage, on peut faire un parallèle avec l'alliance de Dieu avec Israël, qui est assez frappant. Ce qui ne signifie pas que nous devions renverser l'ordre création et histoire subséquente, mais qui signifie que nous avons une suggestion dans le récit que c'est une sorte d'alliance que Dieu conclut avec l'homme au commencement. Déjà d'ailleurs, l'utilisation du nom Yahvé, éternel, dans ce second chapitre, peut le suggérer, car c'est là le nom d'alliance de Dieu. C'est le nom qu'il a révélé à ses alliés, à ses partenaires. Et il s'est montré éternel, il s'est fait connaître sous son nom. Yahvé, comme il dit au début de l'Exode à Moïse, à partir du moment où il a conclu son alliance avec le peuple, et où il s'est révélé comme le Dieu fidèle de l'alliance. Déjà ce nom peut nous faire penser à l'alliance. Mais il y a d'autres éléments. Il y a le jardin. Le jardin qui correspond à la terre promise de l'alliance d'Israël avec Dieu. L'alliance implique un espace délimité par Dieu pour l'homme, un lieu que le Seigneur accorde à son vassal, à la fois comme une largesse et comme une zone de responsabilité. Nous avons ici, dans ce jardin, un peu l'équivalent de la terre promise, et vous avez dans les descriptions certaines analogies, non pas dans les mots même employés, mais dans l'idée de la richesse, de la splendeur, de la prospérité, de l'agrément. La générosité de l'Éternel se révèle dans l'excellence du jardin. Éden signifiait peut-être à l'origine steppe, peut-être un jardin dans la steppe, en acadien paraît-il, idinou veut dire steppe, mais en tout cas, il a pris valeur de nom propre et a fini par évoquer les délices. Et les mots dérivés d'Éden sont employés en hébreu couramment pour les délices. Éden a été traduit paradis, c'est-à-dire verger, c'est un mot perse d'origine, un verger avec toutes sortes d'arbres fruitiers, et c'est dans les vergers qu'on se sent le mieux, surtout en Orient, sous la fraîcheur des beaux arbres. Éden, c'est le paradis, et un paradis bien irrigué, puisque quatre grands fleuves sont en cause. Nous avons vu un flot sortir du sol, et il semble bien que ce soit ce flot qui engendre le fleuve, qui irrigue Éden, et qui ensuite se divise en quatre grands fleuves. Ces quatre grands fleuves permettent d'associer, on peut le remarquer, les denrées les plus précieuses de l'Antiquité, pierres précieuses, pierres d'onyx, d'hélium, or pur, à ce jardin. Par le fait que ces fleuves partent du jardin et circulent dans ces régions où l'on trouve les choses les plus précieuses, nous avons une certaine association qui est donnée. C'est intéressant à relever. Alors, quels sont ces fleuves et est-il possible de localiser ce jardin? La question posée ce matin par Gérard Kunz. L'Euphrate et le Tigre sont bien connus. Euphrate et le Tigre. Là, pris desquels le Tigre et l'Euphrate nommés directement, pas de problème, nous savons où ils sont, et il est assez frappant que les deux prennent leur source assez près l'un de l'autre, sur nos cartes actuelles. On voit ces deux fleuves vraiment particulièrement proches l'un de l'autre. Pas de problème de ces deux côtés. Mais il y en a deux autres. Et là, les difficultés alors commencent à s'accumuler. Le Pishon, à ma connaissance, personne n'a la moindre donnée pour expliquer son nom. On ne n'a pas retrouvé, à ma connaissance, de moindre indication qui permette d'identifier le Pishon. Le Gihon, alors là, c'est plus épineux. Il nous est dit qu'il circule dans le pays de Kush, et habituellement c'est l'Éthiopie. Alors on dit, circule dans l'Éthiopie, bah, le Nil. Le Nil, c'est le fleuve qui, grand fleuve, comparable au Tigre et à l'Euphrate. Est-ce que le Gihon, le nom, pourrait être employé pour le Nil? Ce n'est pas le nom habituel pour le Nil. Il y a un autre nom habituel dans les récits de la Genèse plus tard. Mais est-ce que le Gihon pourrait être un nom pour le Nil? Dans la version grecque, mais faite par des juifs, n'est-ce pas? En Égypte, justement, la version dite des Septante, de Jérémie 2,18, le Nil, ou un bras du Nil, au moins, est appelé Gihar, c'est-à-dire une transcription grecque de Gihon. Ce qui semble indiquer que pour ces juifs du 3e siècle, disons en gros avant Jésus-Christ, Gihon était un nom utilisable pour le Nil. C'est la seule indication, mais comme cela corrobore l'interprétation habituelle de Kush pour l'Éthiopie, alors on se dit que ce devrait être le Nil. Mais alors, gros problème, vous prenez la carte, entre le Nil et le Tigre et l'Euphrate, vous avez des distances très très considérables. Alors, que dire, comment comprendre? Il me semble qu'il y a deux possibilités entre lesquelles vous me trouvez encore hésitant. Alors, ce sera un peu à vous de choisir. Il y a la solution de prudence qui va dans le sens traditionnel et que vous trouverez exposée dans un des articles, peut-être celui Paradis, je crois, ou Eden, du New Bible Dictionary du GBU britannique. Je reviens à dire, Kush est employé parfois pour d'autres régions, une fois pour une région madianite, une autre fois, on pourrait peut-être comprendre qu'il s'agit du pays des Cassites, donc pas l'Éthiopie. Et alors, prenons Gihon et Pishon pour des noms s'appliquant à des canaux ou des cours d'eau qui faisaient plus ou moins communiquer le cours du Tigre et de l'Euphrate en Mésopotamie. Donc ça devait se trouver quelque part en Mésopotamie. Pishon et Gihon, nous ne les retrouverons pas, mais enfin, ils devaient se trouver par là. Et donc, on cherche une localisation géographique précise qu'on puisse repérer sur nos cartes aujourd'hui. Bien sûr, on ne la trouve pas précisément, mais ça doit être par là. Ça, c'est une solution de prudence qui prend donc ces indications comme des indications littérales. Seconde possibilité, j'avoue qu'elle me tente peut-être de plus en plus, mais j'ai quand même des hésitations parce qu'il faut une certaine hardiesse pour l'admettre. Acceptons que Gihon soit le Nil, carrément. Acceptons que Gihon soit le Nil. Il n'est pas question de dire le Nil autrefois prenait sa source tout près du Tigre et de l'Euphrate. Et puis il y a eu des bouleversements horologiques fantastiques, etc. Parce que c'est plus le même fleuve à ce moment-là. Mais, disons, bon, je ne veux pas éliminer l'idée d'un bouleversement, mais ça n'a plus aucun sens d'appeler le fleuve d'un même nom s'il y a eu de tels bouleversements. Donc ça ne peut pas être la réponse. La réponse, alors que si c'est vraiment le Nil et l'Éthiopie, ne peut être que dans une interprétation moins littérale de ce texte. Tigre, l'Euphrate et le Nil, les trois grands fleuves de ce Moyen-Orient que pouvaient connaître les Israélites, trois grands fleuves qui permettent la prospérité, la vie, par les eaux qu'ils charrient dans les grandes fleuves des grands empires du temps. Le Pishon, est-ce que ça ne pourrait pas être le quatrième des grands fleuves, sans doute connaissable par les hommes du Moyen-Orient, savoir l'Indus? pourrait l'imaginer. Ça, aucune preuve, mais on pourrait l'imaginer en tout cas. Et alors, que serait la signification? Bien, la signification ne serait pas que nous aurions ici un moyen de localiser tant de longitude et tant de latitude le jardin d'Éden, mais serait un message qui serait à comprendre à un autre niveau. C'était la terre originelle. C'était un cadre de vie parfait pour l'homme. C'était une terre de prospérité, d'harmonie, où tous les grands fleuves de notre temps avaient leur source, où il y avait plénitude d'irrigation. Tout ce qui est encore vie et richesse dans notre monde a là son origine. Ce serait une idée de la terre originelle comme plénitude des biens dont il nous reste encore quelques éléments qui seraient communiqués par la mention de ces fleuves. Voilà l'autre interprétation possible. Il ne s'agirait donc pas de trouver sur la carte aujourd'hui un lieu particulier qui serait Éden, mais de comprendre que le thème d'Éden fait partie d'un langage partiellement figuratif et qu'il s'agit d'évoquer la terre dans son état originel comme cadre de la vie de l'homme. Alors ce qui peut peut-être confirmer quelque peu cette interprétation, ce qui me fait peut-être incliner légèrement vers elle, sans avoir d'ailleurs, puisque malgré tout, une interprétation figurative et doit toujours être embrassée prudemment, ce qui me fait pencher, c'est la question de la permanence d'Éden. À la fin du chapitre 3, nous n'avons pas lu le passage, mais je ne pense pas y revenir spécialement, il nous est dit que l'homme et la femme furent expulsés d'Éden, et que Dieu a posté des chérubins avec l'épée de feu tournoyant pour en interdire à jamais l'accès. Cherchez ça sur la carte. Et ce qui montre bien que chercher cela sur la carte serait conforme à une interprétation alors strictement littérale de cette donnée, c'est que jusqu'à une époque relativement récente, on l'a cherché sur la carte, si vous voulez. Encore au temps de saint Thomas d'Aquin, on imaginait que le paradis terrestre se trouvait encore. Qu'on pourrait le retrouver par-delà l'Himalaya, se disait-il, ça doit être par là. Si on allait jusque-là, on se buterait aux chérubins. Alors nous avons tous, je crois, admis que ce n'est pas question. Ce n'est pas cela. Mais alors, si l'emplacement du jardin élevé avec les chérubins est quelque chose qu'il ne faut pas prendre comme ça, avec recherche d'un emplacement géographique, peut-être qu'au chapitre 2 aussi, il faut comprendre d'une manière plus libre, plus souple, je ne sais comment dire. Oui. Voilà donc les données que j'ai à vous présenter sur ce sujet difficile que Kuntz ce matin a soulevé déjà. En tout cas, de ce jardin, donc j'aimerais dire de cette terre originelle, le jardin de Dieu, la charge est confiée à l'homme. Il y est installé. Cela correspond dans le second chapitre à ce qui nous est dit de la domination, je crois, dans le premier chapitre, la domination sur la terre, et il est précisé qu'il doit le cultiver et le garder. Vous avez ces deux verbes que nous avons lus ce matin. Cela implique, semble-t-il, une double relation de l'homme au sol. D'abord le travail. Le travail n'intervient pas après la chute, comme on dit, après la désobéissance, mais il est présent dans l'harmonie de la terre originelle, le travail qui sera une imitation de Dieu dans son œuvre créatrice même, ainsi que nous l'avons déjà dit. Lui, l'Éternel, a planté et il donnera à l'homme à cultiver ce que l'Éternel a planté. Et puis la garde. Certains ont imaginé que la garde impliquait déjà la présence d'un ennemi. Ce n'est pas absolument impossible, mais je ne crois pas que le terme employé, qui est très général, qui est un terme vraiment très courant en hébreu pour la garde, implique nécessairement une menace et un environnement hostile. Je crois que le sens fondamental est la prise de responsabilité.
cette garde, c'est le fait que l'homme a assumé cette terre que Dieu lui confie, pas seulement la travailler comme un serviteur, mais vraiment à s'en rendre responsable. Je crois qu'on pourrait dire que nous avons ici la base biblique de tout ce qu'il peut y avoir de légitime dans la propriété. La notion biblique de propriété me semblerait ultimement réductible à cette garde que l'homme doit développer d'après l'ordre de Dieu, installé pour cultiver, pour servir et aussi pour régner, garder. Cette situation, donc, est déjà une situation qui correspond assez bien à une situation d'alliance, bienfait divin, dans un espace délimité par Dieu, et ensuite responsabilité de l'homme, qui a une tâche selon Dieu, que Dieu lui confie et dont il devra rendre compte, il garde pour Dieu. Mais cette situation de responsabilité est ensuite soulignée de façon beaucoup plus formelle et en quelque sorte cristallisée, dans un véritable contrat. Un pacte avec des clauses en bonne et due forme apparaît ensuite, et c'est cela qui me semble établir qu'il y a bien alliance. Au verset 16, il est question, me semble-t-il, de ces clauses. Ce pacte est commandé par Dieu. Dieu commanda à l'homme en ces termes, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Vous voyez, pour remarquer que même la permission de jouir de tous ces biens est présentée comme commandement. C'est tout à fait typique de la pensée biblique. Le fait qu'il s'agisse d'un pacte commandé ne nuit pas du tout à l'idée d'alliance. Au contraire, il est très important de se rappeler que la notion d'alliance dans toute la Bible est une notion où les deux partenaires ne sont pas symétriques. Ce n'est pas une alliance où les deux contractants alors sont chacun autonomes et puis décident de l'un et l'autre de se faire des concessions mutuelles. C'est un seigneur qui termine un pacte pour ses relations avec un vassal. À tel point que les traducteurs en grec de l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont dû traduire le terme d'alliance, n'ont pas pris le terme courant en grec pour alliance, qui est le terme diatheke, parce qu'ils évoquaient trop quelque chose de simplement réciproque, et qu'ils ont pris un terme qui n'était pas utilisé pour l'alliance, mais pour les testaments, le mot syntheke. Je confonds justement. Et ils n'ont pas employé le mot syntheke, qui était le terme habituel pour les pactes réciproques. Et ils ont pris le mot diatheke, employé pour l'alliance. Pour les testaments, ils l'ont employé pour l'alliance de Dieu. Le testament est en quelque sorte un contrat où il y a un souverain et un autre qui reçoit simplement les dispositions prises par le souverain. Quand vous léguez vos biens et votre fortune, c'est vous qui décidez seul. Vous fixez toutes les clauses, mais en fait, c'est une sorte de pacte avec ceux qui recevront les bienfaits en cause, et éventuellement, vous pouvez mettre des clauses qu'il acceptera ou refusera. Vous pouvez refuser un héritage. Le testament, c'est une alliance en quelque sorte dissymétrique. Et les traducteurs, avec beaucoup de sens théologique, je crois, ont choisi ce terme-là pour l'alliance lorsqu'ils ont dû traduire le terme de l'Ancien Testament. Tant ils se sont rendus compte que non, le mot qui évoquait la réciprocité, une sorte de quasi-égalité des contractants, ne pouvait pas convenir à l'alliance de Dieu avec les hommes. C'est pour ça que finalement, nous disons l'Ancien et le Nouveau Testament, oui, le mot testament. Bon, vous êtes peut-être demandé pourquoi on l'emploie, ça fait un peu bizarre pour les gens du dehors. C'est tout ça à cause de ce choix du terme diatheke par les traducteurs grecs ou en grec du mot alliance de l'Ancien Testament. Alors ici, nous avons une alliance vraiment de type biblique où le Seigneur décide, mais où il y a des clauses déterminées. Ces deux clauses, car il y en a deux, elles se balancent selon le balancement des deux infinitifs absolus. Manger, tu mangeras, mourir, tu mourras. Dieu, d'une part, promet à l'homme l'abondance de ses bontés, la vie. L'alliance est d'abord une communication magnifique des dons de Dieu. Dieu se révèle comme le Dieu de grâce, de qui découlent les biens en abondance. Mais en retour, alors c'est la deuxième clause, Dieu exige de l'homme l'obéissance.
l'exige de lui,
le oui joyeux et persévérant à la dépendance où il se trouve. Et s'il trahit, ce sera sa perte. Sûrement, tu mourras. Mourir, tu mourras.
Le mot qui est d'ailleurs employé ici est employé dans une forme qui ne veut pas dire qu'il y aura exécution instantanée. Tu seras mis à mort à l'instant même. Le mot est employé une forme différente de celle qu'on aurait pu employer et qui aurait signifié cela. Il s'agit d'un processus de mort qui commence. La mort commencera à te miner, saper, à te grignoter. Et vous avez donc deux clauses très claires. La permission, tout ce que le souverain donne à son vassal, et puis ce qu'il exige de son vassal, obéissance. Et vous avez deux arbres qui représentent ces deux clauses de l'alliance dans le jardin. Vous avez la multitude des arbres qui évoquent toutes les richesses de la terre dont l'homme pourra profiter. Et nous retrouvons d'ailleurs dans Ézéchiel 31, s'en sert pour en faire des symboles des grandes nations, des grands pays prospères et dont les rois sont fastueux, magnifiques en son temps. Vous avez donc tous les arbres du jardin, mais deux arbres spéciaux qui sont comme les témoins de l'alliance, a suggéré quelqu'un. Vous savez, très souvent l'alliance a comme des témoins. Le premier, l'arbre de la vie, l'arbre de vie, est lié à la première des deux clauses. Librement tu mangeras. L'homme mangeait de l'arbre de vie dans le jardin. C'est un arbre qui n'est pas interdit dans le jardin, au contraire. Il représente le renouvellement de la vie par la bonté de Dieu. Et puis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la connaissance de bien et mal, dont l'interdiction est l'épreuve de l'obéissance de l'homme. Alors, à propos de ces deux arbres, il y a pas mal à dire. Je vais essayer d'être quand même relativement bref. La première chose, je la tire du contexte immédiatement. Je remarque que au chapitre 2, verset 9, c'est l'arbre de vie qui est au centre du jardin, au milieu du jardin. Intéressant. L'arbre de vie au milieu du jardin. Il ne nous est pas dit où l'arbre de la connaissance du bien et du mal se trouve. Mais en 3:3, chapitre 3, verset 3, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est dit au milieu du jardin. Ça me paraît riche de sens. Au fond, cela signifierait à mes yeux que dans l'harmonie de la vie obéissante, c'est l'arbre de vie qui est au centre. Cet arbre qui représente la communication ininterrompue de la vie de Dieu à sa créature. Mais dans la crise de la tentation, dans le passage fatal au péché, alors c'est le deuxième, celui qui représente l'épreuve d'obéissance, qui est au centre. Car c'est là que tout va se décider. Un second commentaire, c'est que l'arbre de la vie a beaucoup de jumeaux, de frères ou de cousins dans les récits des peuples, dans les mythologies diverses. L'idée d'une plante de vie ou d'un arbre de vie est bien répandue. Et en particulier dans l'épopée babylonienne de la création, vous avez une plante de vie. Par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a rigoureusement aucun parallèle. On ne trouve nulle part un arbre comme celui-là. Un certain archéologue anglais, nommé Langdon, avait cru trouver dans un texte une allusion qui aurait pu être interprétée comme une allusion parallèle à ce qui est dit ici de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a proposé sa traduction d'une tablette cunéiforme. Mais tous ceux qui ont lu après lui, tous les spécialistes qui sont venus après lui, qui ont repris le même texte, ont lu tout autrement sans la moindre allusion. Donc je crois qu'il faut complètement abandonner l'idée que ce Langdon aurait bien trouvé quelque chose à mettre donc en marge de ce qui est dit ici de la connaissance du bien et du mal. Donc il n'y a aucun arbre, aucune plante, rien de semblable ailleurs. troisième commentaire. Et alors là, nous commençons à retrouver des questions brûlantes d'interprétation. Comment faut-il concevoir ces arbres ? Sommes-nous liés à l'interprétation littérale qu'il y avait deux arbres dans ce jardin, peut-être côte à côte, puisqu'il est dit au milieu, vous voyez, si on essaierait de comprendre comme ça. Sommes-nous liés à une telle interprétation, ou pouvons-nous comprendre autrement ? Il y a quelques références ultérieures à l'arbre de vie dans toute la Bible qui me semblent encourager une interprétation non littérale. Elle ne l'exclut pas absolument. Mais l'arbre de vie se retrouve, d'une part, dans le livre des Proverbes, où il nous est dit que la sagesse est arbre de vie. Proverbe 3, par exemple, et encore d'autres passages. Je crois qu'il est impossible, surtout penser à ces Israélites qui étaient nourris des textes qu'ils avaient appris par cœur, etc., de lire une telle formule dans les Proverbes sans penser à la Genèse. Je crois qu'il doit y avoir une allusion là à la Genèse. Alors c'est une interprétation, vous voyez, assez libre, d'emblée. L'expression d'arbre de vie appliquée à la sagesse. Nous les retrouvons sans le nom, mais nous avons quand même la preuve que c'est bien ça, dans le chapitre 47 d'Ézéchiel. Je vous ai dit qu'Ézéchiel, au chapitre 31, déjà, parle des nations en les appelant les arbres d'Éden, ce qui montre déjà la souplesse. Puis il y a Ézéchiel 28 qui nous parle d'Éden et qui évoque la chute, je pense, de l'homme, aussi avec une certaine liberté. Mais en Ézéchiel 47, il semble bien que nous ayons la pensée d'un paradis retrouvé. Il y a de nouveau un fleuve qui paraît correspondre à celui d'Éden, un fleuve qui jaillit du temple, cette fois, et qui fertilise miraculeusement toute la région désertique qui va jusqu'à la mer Morte, qui ressuscite cette mer en quelque sorte, de telle sorte qu'elle sera poissonneuse maintenant, des pêcheurs qui vivront sur ses bords. Et sur les rives de ce fleuve, il y a des arbres dont les fruits paraissent avoir une valeur de vie miraculeuse. Ces arbres ne sont pas appelés des arbres de vie, mais on peut penser aux arbres de vie très facilement en les voyant. Ben, ces fleuves sont au bord du torrent, de la rivière, dont le feuillage ne se flétrit pas, dont les fruits ne cessent pas, qui produisent chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits sont une nourriture et les feuilles un remède. Fonction vitalisante de ces arbres. Je crois qu'on a le droit de penser aux arbres de vie, ou à l'arbre de vie de Genèse 3, quand on lit ce texte d'Ézéchiel. En tout cas, c'est confirmé par l'Apocalypse. Car on retrouve à la fin de l'Apocalypse, dernier chapitre de l'Apocalypse, la vision d'Ézéchiel. On retrouve le fleuve d'Ézéchiel, les arbres d'Ézéchiel, dont les feuilles servent à la guérison des nations, etc. C'est les mêmes, c'est pas le moindre doute. On retrouve cette vision d'Ézéchiel, mais cette fois, les arbres sont appelés arbres de vie. Ainsi, nous avons, je crois, dans cette Jérusalem céleste et cette vision finale de l'Apocalypse, de nouveau l'arbre de vie. Et il serait difficile de prendre là le thème de l'arbre de vie, littéralement. Dans cette Jérusalem des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, il y a transposition, il y a multiplication. D'ailleurs, je crois que c'est une indication du plus que la grâce implique, la grâce de rédemption implique par rapport à la première création. Il y avait un arbre de vie, maintenant c'est toute une forêt d'arbres de vie en Apocalypse 22. Mais cet arbre de vie, qui est d'ailleurs évoqué à d'autres reprises dans le livre de l'Apocalypse, est, je crois, manifestement symbolique. Manger du fruit de l'arbre de vie, ce qui est promis au vainqueur, c'est vraiment participer à la vie éternelle. Ces données bibliques, donc, me semble impliquer une certaine liberté dans l'interprétation de la Genèse. Alors, si vous tenez à interpréter disons, littéralement cet arbre d'un arbre réel qui mesurait tant de mètres, etc., je ne veux pas vous en empêcher du tout. Mais il me semble que la balance se penche, à cause de ces indices bibliques, plutôt en faveur d'un usage symbolique dans le récit de ces deux arbres. L'arbre de vie représentant la communion avec Dieu, et le livre des Proverbes nous dira, c'est là la sagesse. C'est là qu'est la vraie sagesse. Alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui, représente autre chose. Alors quoi ? Alors nous allons voir. Nous allons essayer, en analysant maintenant, la rupture. Donc nous sommes en situation d'alliance, au départ, et les théologiens de la Réforme et héritiers de la Réforme ont appelé cela l'alliance des œuvres, parce que c'était la persévérance, l'obéissance de l'homme qui conditionnait son accès à la vie. C'était sur la base de ses œuvres qu'il pouvait continuer à vivre de la vie de Dieu, sur la base de ses œuvres qu'il serait condamné. Et alors maintenant, il nous faut voir quel a été l'événement de rupture. L'homme a transgressé cette alliance, les clauses de ce contrat. Il a trahi son Seigneur. Mais alors en quoi la désobéissance a-t-elle consisté ? Je crois qu'on peut répondre de deux manières qui peuvent être jugées équivalentes, mais il faut quand même développer les significations de chacune. On peut répondre « il a mangé du fruit défendu » ou on peut répondre « il a cédé au serpent séducteur ». Alors examinons chacune de ces deux réponses. C'est ça ce qu'il a fait, voilà la désobéissance dans ce récit. Il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors qu'était ce fruit ? Qu'est-ce que cela signifie ? Je crois qu'il nous faut écarter, là, de façon très formelle, et ce que j'ai dit précédemment, elle implique déjà l'idée d'un fruit magique. Un sens purement littéral, un sens strictement littéral, suggérerait une valeur magique à ce fruit. C'est l'impression qu'on aurait, un arbre dont le fruit donne la vie, comme ça, et à la fin du récit, nous n'avons pas lu, mais nous le dirons demain matin, Dieu dit, surtout maintenant, barrons la route de l'arbre de vie pour qu'il ne prenne pas de son fruit, vive éternellement. Ça a l'air d'être alors un fruit qui aurait une vertu en lui-même, capable de rendre immortel, et une interprétation alors simplement littérale dirait que c'était un fruit magique, mais cela est incompatible avec l'ensemble de la vision biblique des choses, et je ne crois pas qu'un seul évangélique soutienne une telle interprétation. Certains auteurs ont pensé que l'auteur de la Genèse imaginait un fruit aphrodisiaque, parce qu'il existe des fruits aphrodisiaques, et pour certains commentateurs, le premier couple aurait mangé un arbre de fruits aphrodisiaques, ce qui les aurait fait sortir de l'innocence sexuelle de l'enfance. Alors cette interprétation, qui est très répandue au fond, comme dans l'inconscient ou le semi-conscient de nos contemporains. Vous apercevez que les gens, presque instinctivement, ils pensent souvent, je crois qu'elle n'a pas d'appui suffisant dans le contexte. Et que ce que nous avons vu ce matin du rapport homme-femme tel que Dieu l'a institué, et de la parole sur le mariage, et de la nudité sans honte dont il est question à la fin du premier chapitre, exclut l'idée que la chute aurait été, que la désobéissance aurait été une première union sexuelle induite par la manducation d'un fruit aphrodisiaque. Je crois que cela est vraiment à exclure de l'ensemble de la pensée du texte et de la pensée biblique. Alors certains se sont demandé s'il n'y a quand même pas des indices qui évoqueraient dans le texte l'idée d'un lien à la sexualité, de la faute elle-même. Il y a évidemment le fait majeur du sentiment de pudeur qui intervient. Ils connurent qu'ils étaient nus, ils se font des pagnes, d'après le verset que nous avons lu. Je crois que ces indices sont insuffisants pour nous faire dire la faute, le fruit. La faute, c'est une faute sexuelle, et le fruit était un fruit aphrodisiaque. Très insuffisant. Peut-être y aura-t-il quand même quelque chose à récupérer de ces suggestions discrètes, s'il y en a. Alors, s'il ne s'agit pas d'un fruit magique, ni d'un fruit qui aurait eu un effet psychologique par voie chimique, alors il faut voir un sens symbolique dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal comme dans l'arbre de vie. Alors on peut d'ailleurs voir un sens symbolique tout en disant il y a eu un véritable arbre de tant de mètres, etc. Mais cela ne paraît pas alors très, très nécessaire. S'il y a symbolisme, de quoi ? Que représente la connaissance du bien et du mal ? C'est là le point sans doute décisif. Il y a eu pas mal d'interprétations sur cette connaissance du bien et du mal. Il me semble que je peux dire, avec assez de fermeté, qu'il y a deux interprétations principales, deux interprétations clés entre lesquelles il faut choisir sans doute. Bien qu'il y ait une certaine convergence entre elles, il faut quand même choisir entre les deux. Les meilleurs spécialistes, je crois, font hésiter entre ces deux-là. La première interprétation verrait dans l'expression « bien et mal » une façon de désigner la totalité. Il semble qu'on puisse désigner la totalité en mentionnant les contraires, les deux extrêmes, les deux pôles opposés, assez facilement en hébreu. Façon de dire le tout, finalement, quand vous dites le blanc et le noir, quand vous dites les deux extrêmes. Il y a un passage dans l'Ancien Testament, 2 Samuel 14, 17 et 20, lorsque la femme avisée de Tekoa vient parler à David, au roi David, elle lui dit, elle le flatte, n'est-ce pas ? Elle fait l'éloge de sa sagesse, et elle lui dit qu'il pratiquement qu'il connaît tout, et il connaît le bien et le mal. Nous pouvons considérer ce texte, donc 2 Samuel 14, 17 et 20, c'est à propos de l'histoire d'Absalom qu'elle est intervenue sur l'instigation de, ou à l'instigation de Joab. Et au verset 17, elle dit, « Ta servante a dit, puisse la parole de Monseigneur le roi donner l'apaisement, car Monseigneur le roi est comme l'ange de Dieu pour saisir le bien et le mal. Que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. » Puis encore au verset 20, « Monseigneur a la sagesse de l'ange de Dieu, il sait tout ce qui se passe sur la terre. » Nous avons là une formule parallèle, mais où c'est l'idée de totalité qui remplace l'expression connaître le bien et le mal, saisir le bien et le mal. Alors, il y aurait l'idée que la science totale, et en particulier la science des secrets magiques, la science de ces choses que l'homme désirerait tant connaître, est réservée à Dieu, et que le fruit défendu représente cette science mystérieuse que l'homme ne peut pas prétendre atteindre. Ça, c'est la première interprétation. Et la deuxième interprétation, c'est qu'il s'agirait foncièrement de l'autonomie morale. Connaître le bien et le mal semble, dans certains passages de l'Écriture, en particulier Deutéronome 1, 39, le privilège de l'adulte par opposition à l'enfant. Celui qui est mineur, eh bien, il reçoit de ses parents à chaque instant l'instruction sur le bien et le mal. Il ne les discerne pas lui-même, on en décide pour lui. Mais ce qui caractérise l'adulte par opposition, les fils ne savent pas encore connaître le bien et le mal. Ceux qui sont, c'est une façon de dire, mineurs encore. Mais ceux qui sont majeurs sont ceux qui discernent le bien et le mal. Le mot discerner ou connaître ici a un sens volitif qu'il a très très souvent, un sens au moins semi-volitif, qu'il a assez souvent dans l'Ancien Testament. Le verbe connaître a un sens plus divers que notre verbe connaître et peut signifier presque choisir ou décider le bien et le mal. L'homme adulte se distingue de l'enfant par le fait qu'il a atteint un certain degré d'autonomie morale et qu'il décide du bien et du mal pour sa conduite. Relativement, bien sûr, relativement à l'enfant. C'est ce qui caractériserait l'âge adulte par rapport à l'enfance. L'interprétation ici, alors, serait que l'homme, dans sa désobéissance, a au fond revendiqué une autonomie qui lui était interdite par rapport au Père Céleste. Lui, le quasi-fils de Dieu, devait rester dans une situation filiale d'enfant. Dieu voulait lui donner une maturité, mais pas une maturité par rapport à lui. Pas une autonomie par rapport à Dieu, n'est-ce pas ? Par rapport à Dieu, il doit rester dans une situation d'enfant. C'est Dieu qui décide du bien et du mal pour lui. Et le péché de l'homme a été de vouloir atteindre à une situation d'adulte par rapport à Dieu, disons, c'est-à-dire au même rang que Dieu, en remplaçant le Père, sans Père céleste. Il me semble que cette seconde interprétation convient beaucoup mieux à l'ensemble du contexte, bien que la première ait certains appuis philologiques. Je crois que cette seconde, qui a été choisie d'ailleurs par plusieurs grands bonshommes en notre temps, convient mieux. D'abord, elle a l'avantage de faire coïncider exactement le thème de la désobéissance et la mendication du fruit défendu. parce que désobéir, c'est précisément prétendre à l'autonomie morale, décider soi-même du bien et du mal. Nous n'avons donc pas deux choses, en quelque sorte, la désobéissance et puis la mendication du fruit. Mais la mendication du fruit, c'est la désobéissance, si vous voulez. C'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça correspond exactement à ce que le serpent insinue en disant « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ». C'est un statut divin, c'est-à-dire d'autonomie, sans un seigneur au-dessus, sans un père au-dessus, que l'homme va essayer de revendiquer. Donc là encore, il y a un accord que vous n'auriez pas avec l'idée de science totale. Et puis, en troisième lieu, on peut remarquer que le passage, je pense, parallèle d'Ézéchiel 28, lui aussi, tout en soulignant le thème de la sagesse, souligne d'abord la prétention d'être semblable à Dieu. L'orgueil de la suffisance, où l'homme décide, et par une prétention de sagesse, prétend tracer lui-même le cours de sa conduite. Alors il me semble que cette seconde interprétation est de loin l'interprétation la meilleure, qui convient le mieux à l'ensemble des textes bibliques. C'est la prétention à l'autonomie, on se passe de Dieu, on supprime le Père, qui est, semble-t-il, l'essence du péché, d'après ce texte. Manger l'arbre du fruit défendu, c'est pas du tout chercher à grandir dans la science. Science et intelligence ne sont pas péjorativement notées dans l'ensemble de l'Écriture, mais c'est prétendre à une autonomie morale quant au bien et au mal, qui est la mort de l'homme. La seconde façon de dire, sans doute à peu près la même chose, c'est « il a cédé au serpent séducteur ». On peut remarquer tout spécialement qu'il était appelé à régner sur les animaux. Il devait régner sur eux d'après le commandement du premier chapitre. Or, finalement, il y a un retournement à cet égard dans la chute. C'est le serpent qui l'emporte en quelque sorte sur lui et qui détermine la conduite de l'homme au lieu d'être déterminé par lui. Alors la prodigieuse astuce du serpent pourrait être remarquée. Je vous ai traduit littéralement les premières paroles. Elles ne sont pas sous la forme interrogative dans l'hébreu. Ce n'est pas « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est au contraire sous la forme d'une extrême affirmation, avec une particule qui sert généralement à affirmer de façon emphatique. Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Alors je crois que c'est justement là que nous discernons l'habileté de l'insinuation du serpent. Il présente les choses comme en porte-à-faux, dans un excès. Il a déjà truqué un peu l'affaire en disant, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Dieu a dit, vous ne mangerez pas d'un arbre. Mais il dit de tous les arbres du jardin, lui. Il présente l'ordre de Dieu, qui était la sauvegarde de l'homme, comme une mesquinerie. Mais il ne pose même pas cela comme une question, il l'affirme comme une énormité. C'est énorme. Et ainsi suggère que cela ne peut pas être. Mais il ne fait que le suggérer. Et il va créer alors une réaction chez la femme. Il va faire en sorte qu'elle engage le dialogue avec lui, alors que peut-être elle ne l'aurait pas fait autrement. Il faut répliquer une chose pareille. Et ainsi, elle accepte en quelque sorte de se lier déjà quelque peu à lui. Deux choses sont à remarquer, ou disons, à commenter spécialement, me semble-t-il, à propos de ce rôle du serpent. D'abord, il faut bien marquer que c'est l'homme qui est responsable de la chute. C'est quand il a mangé, seulement quand il a mangé du fruit, que la rupture est consommée. Il essaiera de fuir sa responsabilité ensuite dans ses explications embarrassées à l'Éternel. Il dira c'est la femme, etc. Mais le récit est clair, c'est quand l'homme a cédé à la suggestion que la rupture a été consommée. Mais alors que signifie dans cette situation-là, qui est fondamentale, et tout le reste de la Bible le soulignera aussi, vous voyez, Romains 5, c'est par un homme que la mort est entrée dans le monde, Adam. Que signifie à ce moment-là le rôle des deux autres personnages, la femme et le serpent? Ricoeur rappelle à propos du rôle de la femme le vers de Shakespeare, « Frailty, thy name is woman ». Fragilité, ton nom est femme. Je pense qu'on peut en effet commenter, parce que l'idée d'un sexe faible est biblique, c'est dans 1 Pierre 3, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas l'effacer du Nouveau Testament. On peut commenter que ce rôle de la femme, qui de toute façon implique à la fois l'homme et la femme dans le péché, de telle sorte que nul ne pourra se retourner vers l'autre sexe pour l'accuser, c'est ta faute, c'est pas ta faute. Et tous les deux sont ensemble, de manière admirablement combinée. En dehors de ce point-là, je pense qu'on peut commenter que le péché est commis à la fois par la force de l'homme et par la faiblesse de l'homme. Que les deux, en quelque sorte, s'y exposent. Dans le péché, il y a fausse affirmation de force, et il y a témoignage à la faiblesse de l'homme. Et ainsi, je dirais, nous voyons l'homme et la femme complices dans la désobéissance d'Éden. Et ensuite, le serpent. L'importance du serpent, c'est que l'homme n'est pas l'inventeur du mal. C'est lié à l'aspect faiblesse du péché en lui. Mauvais par faiblesse. L'homme est séduit par un étranger. L'homme et la femme sont séduits par un étranger. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faiblesse, ça veut dire aussi aliénation. Ainsi, de manière évidente, le péché apparaît comme une façon de troquer le Père Céleste, Seigneur généreux, contre un autre maître, contre un maître d'en bas. Sans possibilité pour l'homme qui croyait se libérer et être comme Dieu de réaliser son aspiration. Je crois que cette présence du serpent est là pour souligner d'emblée le caractère d'aliénation, de servitude mauvaise du péché. Luther disait, je crois, mais peut-être même déjà après Saint-Augustin, que l'homme est une cavale que monte Dieu ou diable, mais il y a toujours soit Dieu soit le diable pour le manipuler. Dieu ne le manipule pas. Le diable pour le manipuler, ou Dieu pour agir avec le tact infini qui lui est propre et le déterminer d'une manière qui le rende vraiment libre. Mais l'illusion de l'autonomie doit être dénoncée de toute façon. L'homme a cru accéder à l'autonomie, en fait il tombe sous la coupe du serpent. Alors qui est le serpent ? Qui est le serpent ? Nous retrouvons les problèmes d'interprétation. Une interprétation strictement littérale, là encore, me semble impossible. Car une interprétation strictement littérale voudrait que ce soit le serpent, remarquez bien d'ailleurs que c'est le serpent, pas un serpent, voudrait que ce soit le serpent en tant qu'animal des champs, en tant que bête, parmi les bêtes, c'est comme ça qu'il est présenté au verset premier. Et parce qu'il était plus rusé que les autres animaux. Voilà ce que dit le texte, si vous le prenez tout littéralement. Que c'est le serpent qui a ainsi séduit la femme et précipité le drame. Le serpent comme serpent. Et en vertu d'une ruse qui lui était propre dans sa classe d'animaux. Voilà ce qu'une interprétation strictement littérale impliquerait. Et là encore, aucun évangélique ne reprend une telle interprétation qui est trop manifestement opposée à d'autres textes de l'Écriture, en particulier au texte de l'Apocalypse, chapitre 12 et chapitre 20, qui identifient expressément ce serpent. Le vieux serpent, le serpent ancien, c'est-à-dire de la Genèse. Le dragon, c'est-à-dire le diable. L'Apocalypse nous dit clairement que nous devons comprendre que le serpent représente ici le diable. La chose est parfaitement nette dans ces deux textes. Surtout du fait que le mot serpent est associé au mot dragon, et ici dans le texte on ne pense pas tellement à un dragon, et que le dragon est une figure de style, une image symbolique employée chez les prophètes, par exemple au début d'Ésaïe 27, pour le grand adversaire de Dieu, pour la puissance maléfique qui s'oppose au dessein de Dieu dans le monde, du moment que le dragon est une figure symbolique, simplement, pour désigner le diable. Les passages d'Apocalypse 12 et 20 me semblent alors suggérer le plus naturellement que le serpent ancien aussi doit être pris comme un symbole littéraire pour désigner le diable lui-même, de telle sorte que nous avons ici le diable présenté dans l'histoire, raconté comme un serpent. Cependant, vous le savez, beaucoup d'évangéliques hésitent devant cette interprétation-là. Et ils préfèrent dire que le diable s'est incarné en un serpent qui mesurait peut-être tant de centimètres de long et qu'il a parlé au travers de ce serpent à la femme. Alors, je commenterai de la manière suivante. J'ai cru cela un temps, mais je ne pense plus maintenant correct. Pourquoi ? D'abord parce que rien n'est dit de ce genre dans le texte lui-même. Nulle part. L'idée d'une incarnation du serpent, du diable dans le serpent, l'idée que le serpent aurait été une forme concrète mais représentant le diable n'est pas dans le texte du tout. Si on lit le texte tel qu'il est, c'est la ruse du serpent en tant qu'animal qui est en cause, rien d'autre. Le texte ne suggère pas cette espèce d'incarnation. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est une complication supplémentaire dont je ne vois pas l'utilité. Vous voyez, c'est un principe fondamental de toute recherche scientifique que le principe d'économie. On n'échafaude pas d'hypothèses inutiles. Il semble suffisant pour rendre compte des données que nous avons dans la Genèse et dans l'Apocalypse de dire que le serpent est ici une figure littéraire utilisée pour représenter le diable. Alors pourquoi poser en plus ce que le texte ne dit pas, que c'était quand même un serpent qui mesurait tant et qui pesait tant et qui était l'incarnation effective du diable? Je ne crois pas que ce soit utile et c'est pourquoi je ne maintiens pas, quant à moi, cette interprétation. Je crois que nous sommes ici en présence de ces deux niveaux dont je vous ai parlé lors de la première séance. D'une part, vous avez une lecture naïve possible. Alors tout se déroule, alors ça c'est, vous prenez ça tout littéralement, le serpent qui, comme les animaux des contes primitifs, parle, c'est tout naturel, personne ne s'en étonne, il était rusé. Vous avez cette manière de lire, et puis alors vous avez l'autre manière de lire, qui comprend que cette naïveté de surface est là pour représenter, par voie symbolique, ce qui s'est passé au plan spirituel en réalité, à savoir l'intervention du personnage réel de Satan. Il me semble que c'est comme ça que le texte finalement s'étudie le mieux. J'espère ne scandaliser personne en exposant cette pensée. Il me semble que nous sommes donc en présence d'un texte qui, d'une part, raconte à un niveau imagé, pittoresque. Dieu paraît là comme un homme qui peut souffler dans les narines, qui ensuite, vous avez des arbres, puis vous avez un serpent qui parle, comme dans les récits que des tas de peuples ont imaginé. Ça se lit comme ça, ça paraît naïf et puéril, mais il faut comprendre que tout cela est utilisé à titre figuratif pour nous raconter une histoire où l'humanité, sur la terre originelle que Dieu avait faite belle pour elle, que cette humanité, en alliance avec Dieu et en ressemblance de Dieu, doué d'un privilège de nature et de situation puis de nature unique, a prétendu à l'autonomie morale par rapport à Dieu et s'est ainsi plongé dans la mort à l'instigation du diable, personnage réel dont l'existence ne sera révélée d'ailleurs que plus tard dans l'Écriture et de manière tout à fait nette seulement développée seulement dans le Nouveau Testament. Voilà, me semble-t-il, comment il faut comprendre ce texte. Alors, pourquoi le serpent est-il choisi pour figurer le diable ? C'est un point qui mérite d'être mentionné. Il faut se rendre compte qu'il y a peu de figures plus chargées de symbolisme que celle du serpent. Que le serpent est présent dans beaucoup de mythologies, dans beaucoup de cultes, et que le serpent est l'animal magique par excellence, et aussi un emblème sexuel. Dans beaucoup de ces cultes qui mélangeaient la sensualité et l'adoration, les cultes cananéens en particulier, vous avez une utilisation systématique de la libido, pour parler en langage contemporain, au profit de la mystique. Et vous aviez alors, par exemple, les pratiques de prostitution sacrée qui étaient fondamentales dans ces cultes. Le serpent évoquait certainement tout cela pour les Israélites qui ont reçu de Moïse ce récit. Et il me semble que, en désignant la puissance adverse, tentatrice et asservissante, par la figure du serpent, au fond, Moïse désigne dans ses cultes, dans cette séduction de la magie et d'un érotisme détourné vers la religion, désigne là le grand ennemi, le grand danger qui risquerait de faire sombrer Israël. Et c'est pourquoi, j'ai dit tout à l'heure que les quelques éléments de suggestion sexuelle peuvent être récupérés comme ça. Il y a une possibilité de comprendre qu'il y a ces suggestions dans le texte même. Dans la mesure où la grande tentation pour Israël allait être, dans les siècles qui ont suivi, effectivement, ces cultes cananéens licencieux, c'est là ce qui tendrait à les détourner de l'Éternel. Et ils sont avertis, c'est le serpent séducteur contre lequel il faut lutter. Voilà, me semble-t-il, ce qu'on peut dire du pourquoi de la sélection de la figure du serpent pour représenter ici le diable. Mais alors, il reste une grande question pour conclure. Une grande question qui sans doute vous brûle plus ou moins les lèvres. Nous avons parlé d'emploi de symboles, de langage figuratif, de plans. Mais qu'en est-il de l'historicité foncière de ce récit? Beaucoup sont sans doute prêts à me dire, vous admettez un tel usage de symboles, que finalement, pourquoi le récit dans son ensemble ne serait pas symbolique? Ne serait-il pas, comme tant de gens le disent autour de nous, tant de spécialistes, ne serait pas un mythe, une histoire fictive, pour représenter les structures fondamentales de l'humanité et pour rendre compte du paradoxe du péché qui ne peut guère se dire autrement qu'à l'aide d'une image? Voilà ce que diraient beaucoup autour de nous. Alors je ne vais pas esquiver ce problème central et final. Tout d'abord, je voudrais bien marquer que l'utilisation d'un langage symbolique, comme j'ai supposé que l'auteur en avait utilisé, je voudrais bien marquer que l'utilisation d'un tel langage ne permet en rien de préjuger la nature du fond de l'affaire. Je pose alors comme une thèse méthodologique fondamentale que ce n'est pas l'existence de figures symboliques au long de ce récit qui nous permet de dire alors le tout est symbolique. Ça ne dit rien à ce propos. Je dirais, ce n'est même pas une présomption en faveur. Car si l'on se prend la suite des textes bibliques, si on lit les prophètes, on se rend compte qu'il arrive très très souvent que des événements réels dans le temps et dans l'espace, des événements qui se sont produits et qui pourraient être datés, soient racontés dans un langage symbolique, avec, si vous voulez, un double registre. Vous prenez Ézéchiel 16, par exemple, et vous avez toute l'histoire de Jérusalem qui nous est racontée d'une manière allégorique. Jérusalem est une jeune adolescente que l'Éternel découvre baignant dans son sang, il la lave, etc., elle se marie, etc. Vous avez toute l'histoire racontée comme ça, en langage symbolique. Et puis vous avez un autre chapitre un peu plus loin qui nous raconte la même histoire en langage littéral. Mais il est clair que c'est une histoire tout à fait réelle, avec des événements d'espace et de temps qui nous sont racontés avec ce registre symbolique. De même dans les paraboles de Jésus. Plusieurs des paraboles de Jésus sont de ce type. Quand Jésus raconte l'histoire des vignerons homicides, il rappelle l'histoire d'Israël. Le maître de la vigne envoie des serviteurs et des serviteurs, et les vignerons maltraitent les uns après les autres, les tuent, jusqu'à ce qu'il envoie le Fils, qu'ils tueront aussi. C'est l'histoire que Jésus rappelle, mais dans un langage figuratif, manifestement. Et puis vous avez suprêmement le cas de l'Apocalypse, qui est particulièrement important parce qu'il semble bien que nous ayons une sorte de correspondance entre les commencements et la fin, entre la révélation protologique de ces premiers chapitres de la Genèse et la révélation eschatologique des derniers chapitres de l'Apocalypse, qui justement reprennent le jeu des symboles de ces premiers chapitres de la Genèse, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Dans l'Apocalypse, vous n'avez que ça, des événements réels, et dont nous croyons qu'ils se produiront dans le temps et dans l'espace, mais racontés à l'aide de symboles. Donc le fait que nous ayons un langage figuratif ne signifie pas en lui-même le moins du monde que nous ayons un fond là symbolique. La question doit se décider autrement. Contre certains libéraux et contre certains évangéliques, j'affirme qu'on doit dissocier tout à fait les deux problèmes. Et j'aime beaucoup la formule d'un évangélique du début du siècle, James Orr, je crois bien que c'est de lui. Il dit: le problème n'est pas de savoir si nous avons un récit historique de la chute, mais si nous avons le récit d'une chute historique. C'est ça la vraie question. Alors sur cette autre question, là je crois qu'il faut être absolument net et dire que l'historicité est essentielle, que le message biblique dans son ensemble serait gravement altéré si nous lâchions le moins du monde du lest sur ce point, qu'il y a eu un premier homme, une première femme dans le temps et dans l'espace, et une succession d'un état d'harmonie avec Dieu, et puis un événement de rébellion et une entrée dans la mort, dans le temps et dans l'espace. Cela, je crois, est décisif. Alors sur quoi est-ce que nous devons l'appuyer? D'abord, négativement, je crois que les arguments lancés contre cette position sont vains. En général, c'est du véritable terrorisme intellectuel. On nous dit: ce que nous savons, un homme de science, c'est une formule de rigueur. Ne nous permet pas de placer un tel événement dans l'histoire des commencements. On dit ça, c'est une prétention gonflée, absolument inadmissible. Ce que nous savons, c'est quelques bribes conjecturaux. Nous avons quelques éléments pour supposer que sur tel ou tel millier d'années, c'est ça qui s'est produit. Les méthodes historiques à disposition ne permettent simplement pas d'investiguer un tel problème et de voir s'il y a ou non réalité d'un événement comme celui qui est rapporté par la Genèse. Simplement, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas, je crois, de raison péremptoire dans les découvertes scientifiques, absolument rien là-dessus. Deuxième mauvaise raison, de toute façon, personne n'était là pour voir et personne donc n'a pu rapporter historiquement cet événement, bien sûr, mais en faire une raison dirimante, c'est d'exclure la révélation, l'idée d'une révélation dans un sens vrai de la part de Dieu à ses prophètes. Ainsi, je crois que nous ne pouvons pas admettre non plus cette seconde raison. Donc les raisons fondamentales ne sont pas, je crois, admissibles. Alors, quelles sont les raisons positives qui nous obligent à maintenir l'historicité? D'abord, il y a les suggestions de l'ensemble de la Genèse, du texte. Deux types de suggestions. Une première série a été bien mise en œuvre par le père Dubarle, un catholique, qui adopte à peu près la position dans son livre, en tout cas sur le péché originel dans l'Écriture, la position que je vous ai présentée. Usage d'un langage figuratif, mais historicité du fond. Il montre que le récit de la Genèse l'a pris dans une série d'histoires de Toledote, de commencements historiques. Nous avons toutes les séries, Abraham, Isaac, etc. Puis ça remonte jusqu'à Adam. Et il n'y a pas lieu, étant donné le plan de la Genèse, la manière dont les choses sont présentées, de douter que pour l'auteur, il s'agissait de faits. De faits qui étaient en chaîne, en quelque sorte, avec les faits rapportés par la suite. Il y a un deuxième élément qui touche davantage à la doctrine, qui me paraît très important, c'est que la dissociation du début du monde et du début du mal, du début de l'être et du début du mal, qui s'opère dans le texte de la Genèse, est le propre du récit biblique. C'est un des traits par lequel le récit biblique s'oppose à toutes les mythologies. Ricoeur lui-même, qui croit que c'est un mythe, est quand même obligé de reconnaître cela et de le mettre en valeur. Il reconnaît que c'est là le propre de la Bible. Dans toutes les mythologies, finalement, le mal est un ingrédient de l'être. Il était là au commencement. Et ça correspond à la situation du pécheur qui trouve l'être en lui. Bon, il extrapole, l'être était au début. Justement, la Bible s'oppose à cette conception et dit, Dieu a créé toute chose bonne. Tout cela était très beau. Et le mal est survenu. Le mal est un accident qui ne provient pas de l'harmonie divine. Ça implique une origine historique. Alors, si on enlève ce caractère historique au fond de l'affaire, au fond, on trahit l'intention du texte biblique dans ce qu'elle a de plus singulier en face de toutes les mythologies. Alors ça, c'est encore un autre point. Troisièmement, il y a les références dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas très développé, très explicite, mais dans le Nouveau, vous avez surtout le passage bien connu de Romains 5, qui est extrêmement frappant. Passage de Romains 5, où Paul fait un parallèle contrasté, d'ailleurs, entre la désobéissance du premier homme qui a entraîné l'introduction de la mort dans le monde, l'implication dans le péché, dans la mort de toute sa descendance, de la multitude, et puis l'œuvre de Jésus-Christ, dont l'obéissance à lui aussi d'un seul homme a produit la justification pour une multitude de ceux qui sont de son humanité, pourrions-nous dire. Ce parallélisme montre que pour Paul, il s'agissait d'un individu, c'est Adam, pas d'une figure simplement pour l'humanité en général, et qu'il y avait eu un événement précis à déterminer par lequel la mort était entrée dans le monde. Ce texte de Romains 5, je crois, ne peut pas être tourné. Il enseigne qu'il y a eu un Adam individuel et une chute déterminée dans le temps et dans l'espace. Dans le prolongement de ce que j'ai dit sur l'originalité du récit biblique, disjonction de l'être et du mal, je crois qu'il nous faut prendre conscience que toute la doctrine du péché est altérée si nous renonçons à l'historicité de fond. Parce que nous laissions le problème en suspens ou non, finalement, ça reviendra toujours au même, nous serons comme entraînés par un poids invincible. Si nous disons que le péché n'est pas intervenu historiquement, à partir d'un certain moment, nous supposons qu'il était là au commencement. Nous supposons qu'il est, disons, de l'essence humaine elle-même, qu'il appartient à l'humanité comme telle. Même si nous ne faisons pas à ce moment-là une théorie pour dire Dieu a créé l'homme pécheur, finalement, nous sommes entraînés vers cette pensée comme par une pente inexorable. Et il est tout à fait, disons, irresponsable de dire c'est comme si il était venu plus tard, mais il n'est pas venu plus tard. Alors toute la doctrine du péché en est changée, car comment la responsabilité dans le péché peut-elle être dénoncée avec l'acuité biblique si finalement c'est humain de pécher, puis c'est tout. Dans la pensée biblique, il n'est pas humain de pécher. Il est inhumain de pécher. Cela vient de cette perversion de la nature survenue. Mais l'homme vraiment plein et digne de ce nom, ce n'est pas le pécheur. Nous avons déjà suggéré précédemment. Il agit contre son être d'image de Dieu quand il pêche. Il trahit sa propre définition. Donc, la responsabilité même du péché, son inexcusabilité, sont liées à ce caractère historique. Et du coup, la rédemption aussi. La rédemption aussi est affectée. Car si le péché était une donnée de la nature humaine comme telle, comme créée, alors nous ne pourrions en être sauvés que par une transmutation métaphysique. D'ailleurs, c'est une idée qui s'est glissée insidieusement à la suite d'influences païennes dans certaines traditions chrétiennes, l'idée que pour être sauvé, il faut être divinisé. Jamais vous ne trouvez cette idée dans la Bible. Parce que le problème n'est pas notre nature telle que créée. Le problème, c'est le péché venu ensuite, la disposition que nous avons prise. Et c'est pourquoi la rédemption, remède au péché, peut être historique aussi. Une transmutation métaphysique, ce serait de n'importe quel temps. Mais comme le péché est historique, et qu'il est entré dans le monde, espace et temps, en un point déterminé, la rédemption aussi, sa réparation, par l'expiation suffisante, peut être historique, et s'être passée une fois pour toutes, dans le temps et dans l'espace. Ce qu'elle a fait, vous le savez, en Golgotha. Voyez donc l'enjeu de l'affaire. Il est décisif pour nous de maintenir l'historicité de l'événement rapporté dans un langage qui lui convenait, comme un langage symbolique convient aux événements de la fin dans l'Apocalypse.